France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Leïla Bekti. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Como nous parlera du film de Sophie Le Tourneur, Voyages en Italie. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Le Cantique des oiseaux, poème mythique du XIIe siècle, vient de paraître en français. Leïla Anvar nous expliquera les enjeux de ce monument de la littérature persane. 19h50, Affaires à suivre en compagnie du réalisateur Martin Jova. Le tout réalisé par Alexandre Fougeron avec Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir Leïla Bekti.
Bonsoir.
Très heureux de vous recevoir alors que vous êtes à l'affiche du film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, sorti aujourd'hui sur les écrans. Très bien entouré, très belle distribution. La semaine prochaine, on pourra vous découvrir dans C'est mon homme, de Guillaume Bureau, également très bien entouré. N'oublions pas que vous êtes très bien entouré et qu'on découvre vos talents de chanteuse, notamment dans LOL qui ressort sur Prime Video. Deux beaux films, un programme qui fait du bien, ça me donne l'occasion de vous accueillir pour essayer d'en savoir un peu plus sur la façon dont vous pratiquez votre art, de revenir sur quelques moments importants de votre parcours. Alors, enfance heureuse, ici les Moulineaux, puis Bagneux, avec des étés dans la famille en Algérie. Double culture assumée, ce qui est une chance et une force, je crois.
Oui, une grande chance, parce que j'ai eu la chance déjà de vivre avec mes parents, mais avec ma grand-mère aussi, avec laquelle je parlais. J'ai toujours parlé arabe. Et puis nos parents nous amenaient tous les étés en Algérie. Donc on a. Oui, je me rends compte que j'ai beaucoup d'amis à moi qu'on n'a pas amenés en Algérie ou qu'on n'a pas amenés dans leur pays d'origine. Et de savoir d'où je viens, ça m'a aidé à aller. À continuer en fait et à donc oui j'ai beaucoup de chance d'avoir cette double culture et de bien vivre avec.
Et puis alors vous êtes la petite dernière, il y a un frère, une sœur avec qui vous regardez des films en boucle, Le Péril jeune avec Capliche et puis Bernie, oui. D'Albert Dupontel, mais vous avez raconté Leïla Bekti un souvenir important, c'est celui vous aviez je crois 11 ans quand vous avez vu La Strada de Fellini pour la première fois. Anthony Quinn et surtout, si je puis dire, Giulietta Masina, vous en gardez quel souvenir ?
C'était un souvenir. Je me rends compte que je parlais avec mes yeux d'enfant, c'est-à-dire quand je suis allée voir le film avec l'école, je l'ai découvert en classe et je suis rentrée à la maison et ma mère m'a dit alors, il était bien ce film ? Et j'ai dit bah oui, la dame, elle était super, elle a parlé avec les yeux. Et puis j'ai su des années plus tard que c'était une très très grande actrice. Et La Strada, ça, Giulietta Masina, elle m'a. Il y a des visages comme ça qui te laissent une empreinte. Mmh. Ouais, Giulietta, elle en fait partie. J'ai dit Giulietta comme si.
Bah, c'est une copine.
Ouais, j'aurais adoré.
Bah, pour le plaisir justement, pour voir aussi pour ce qu'elle va dire dans cet extrait, on va écouter Giulietta Masina en 83 qui sera contée au micro de Jean Chouquet.
Mmh. Avant tout, je m'excuse de mon mauvais français. Et je m'excuse aussi si quelquefois, pardon, souvent, et je suis obligée de chercher les mots pour m'exprimer le mieux possible. Alors, j'étais un enfant qui rêvait beaucoup. Et je me rappelle que la première fois que ma mère m'a demandé quelle manière de jouer je préférais, et je disais, Je préfère surtout de jouer la comédie. La comédie, mais pas seulement la prose, le théâtre, mais aussi de danser, aussi de chanter. Et je pense que déjà, si petit, si jeune, j'avais décidé pour instinto, de choisir la rue du théâtre.
J'adore sa voix.
Elle est belle. Mmh. Voilà, la vôtre n'est pas mal, Leïla Bekti.
Mmh, et puis avec son accent italien, comme ça, j'adore.
Mais pour vous, enfant, l'idée de jouer, de chanter, de danser, ça vous traversait l'esprit ou c'était complètement inaccessible ?
C'était quand je jouais ou je dansais ou je faisais des playbacks sur Elsa, t'en vas pas, dès que mon père partait au travail, je lui chantais ça. Mais c'était là, c'était pour le coup, je ne me projetais absolument pas dans l'idée de devenir actrice. Ou je le dis souvent, mais pour moi, Mufasa dans Le Roi Lion et Claire Chazal, ils faisaient partie du même monde, c'était dans la télé. Donc c'était pour moi trop... Oui, ça n'aurait jamais pu arriver. Donc j'étais pas triste à l'idée de... Mais du coup, je me disais que c'était pas possible. Et puis j'avais envie de travailler dans le social. J'ai toujours voulu...
Aideuse de gens, vous disiez quand vous étiez petite.
Aideuse de gens, ouais. Aideuse. Après, j'ai voulu être caisseuse, parce que j'ai vu que la caisse, ça faisait bip bip. J'ai dit, mais attends, c'est pour moi. Et puis, après, j'ai eu beaucoup de chance.
C'est section L, au lycée, c'est pas la science, c'est option théâtre.
Oui, option théâtre.
Et c'est quand même une approche de cet univers-là.
Oui, c'est une approche, mais je pense qu'elle était toujours... c'était un peu pour... alors, peut-être que je me cherchais des excuses, au fond, mais j'avais... ma meilleure amie, à l'époque, avait un an de plus que moi, et elle m'avait dit... j'étais en troisième, j'allais arriver en seconde, et il fallait que je choisisse mon option. Et elle m'avait dit, mais je les vois au théâtre, ils portent des chaussons, ils ont l'air... Franchement, ça a l'air cool pour eux. Et j'ai dit, mais je vais faire du théâtre, en option lourde. Et puis j'ai eu la chance de tomber aussi sur des bons profs. Mais encore une fois, c'était après ces trois années, la seule chose, c'est que quand j'ai eu mon bac, j'ai appris qu'à Saint-Denis, à la fac de Saint-Denis, il y avait un cursus qui s'appelait la médiation culturelle, et que je pouvais allier et tout ce qui était social avec tout ce qui était artistique. Donc je me suis dit, c'est génial, parce que je vais pouvoir enfin... Puis ça ne s'est absolument pas passé comme ça, parce qu'il suffit pas de vouloir aider les gens. Faut faire un vrai travail sur soi, et je l'ai compris plus tard. Mais et du coup, j'ai dû faire un stage dans un... Alors c'était à nous de choisir, et l'amie de mon frère à l'époque était directrice d'un centre d'handicapés. Et j'y suis allée, je devais faire un stage de 2 ou 3 semaines, et ça a duré 2 jours. J'arrêtais pas de pleurer. C'était trop dur. Je me disais, pourquoi... Et pourquoi moi ça m'est pas arrivé, enfin pourquoi ça m'arrive pas à moi, et pourquoi, et puis j'étais dans un espèce de truc de surempathie, mais et elle a bien fait. Je me souviens que l'ami de mon frère m'a dit, mais écoute, tu ne m'aides pas, tu ne les aides pas, tu ne t'aides pas, enfin c'est là pour le coup va falloir j'ai arrêté, j'ai voulu faire une année sabbatique. Je l'ai annoncé à ma famille comme si je sortais d'un master avec après je sais pas combien d'années d'études. J'ai dit, écoutez, j'ai vraiment bien réfléchi. Il faut que je
fasse le point.
Voilà, mais c'était exactement ça. Faut que je fasse le point. Et j'étais persuadée que ça allait me dire, non mais attends, évidemment, pas du tout. Ils m'ont dit, tu restes pas un an à rien faire. Et ils ont bien fait. Et du coup, j'ai bossé dans la boutique de mon frère à l'époque.
En lisant le magazine Casting.
Voilà, toujours.
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 Moi, je me demandais toujours ce que ça valait, ce genre de magazine. Vous êtes la preuve vivante, l'élève, que ça marche.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas envoyé... Alors, le magazine Casting, c'est très bizarre ce que je vais vous raconter, mais j'achetais ce magazine tous les mois. Je regardais s'il y avait des annonces qui pouvaient me correspondre. Je n'ai jamais envoyé une seule photo, une seule lettre. Je n'ai jamais appelé qui que ce soit. En fait, dès que je voyais une annonce qui pouvait me correspondre, ça me faisait sourire. Je me disais, ah, ça peut être possible. Au moins d'assister au casting. Et puis l'idée du casting me faisait rêver. Pour moi, c'était des gens qui étaient habillés tout en blanc comme Eddie Barclay. Il y avait des limousines, il y avait plein de trucs à manger. Et puis j'ai passé mon premier casting grâce à Vincent Cassel, que j'ai aperçu sur Canal+, et il parlait du film Chétan, réalisé par Kim Chapiron, et il disait à la télé qu'ils avaient besoin de d'acteurs non expérimentés, qu'il fallait absolument envoyer son CV. J'ai trouvé ça drôle parce que je l'avais vu dans le magazine Casting. Donc je me suis dit, mais pareil, je n'ai absolument rien fait. Et un jour, c'était mon jour de congé, j'étais gare du Nord, et Julie Duclos, que j'embrasse, si elle nous écoute, c'est une grande metteur en scène, une grande actrice.
Elle nous écoute souvent, donc on peut l'embrasser, oui.
Ah! Voilà, qui est l'une de mes meilleures amies. On était ensemble au lycée. On a fait toute notre lycée ensemble. Elle m'appelle et elle me dit, écoute, je viens de passer un casting, ils recherchent des filles, vas-y, c'est rue du Paradis. Et j'étais gare du Nord.
Destin.
Ouais. Elle m'a dit, ramène des photos, j'ai fait des photos d'identité, en noir et blanc. Je me suis dit, c'est pour le cinéma quand même. Et ça a commencé comme ça.
Bah oui, ça a commencé comme ça, parce que effectivement, Kim Chapiron vous engage pour Shaitan. Kim Chapiron qui sort un film très bientôt, là, dans,
oui,
dans quelques semaines.
Oui, j'ai mis ma main.
Ça enchaîne quand même assez vite derrière. Puis c'est la rencontre avec Jacques Audiard, qui lui aussi vous choisit pour jouer dans son film Un prophète. Alors c'est drôle parce que Karim Leclou, là, il y a deux, trois semaines, ici, racontait lui aussi son arrivée sur ce tournage où il s'était passé 24 heures, il est resté 15 jours. Il parlait de ça comme de cette expérience comme dans un rêve, de quelque chose de très doux, plein de bienveillance. Et je crois que c'est un peu ce que vous avez vécu aussi. Alors avec un vrai rôle pour.
Oui, après c'était assez. Moi, je suis arrivée à la fin du film, vers la fin du tournage. Donc, faut savoir qu'un tournage, on est dans une sorte d'intimité d'équipe et que tout le monde s'appelle par des surnoms. Ils ont plein de souvenirs à évoquer et t'arrives à la fin du tournage, tu connais pratiquement personne. Donc, j'avais pas désacralisé le fait aussi de travailler avec Jacques Audiard. C'est un de mes réalisateurs préférés. Donc, il y avait un espèce de, j'avais très, très, très peur. Mais je suis évidemment, je suis hyper heureuse à l'idée de même d'évoquer le film parce qu'il a changé ma vie personnelle, ce film, surtout, beaucoup.
Alors, c'est peut-être le moment de découvrir votre choix musical. Mmh. Leïla Bekti, vous avez choisi une chanson de Corneille comme un fils.
Oui.
Pourquoi ce choix?
Alors, il y a quelques jours, je l'ai réécouté et je me suis dit, mais c'est sublime ce qu'il raconte. Alors, il raconte qu'il parle de son père, de ce qu'il aurait adoré avoir comme relation. Mais surtout, je trouve que il y a une espèce de définition de, qui pour moi, de l'amour ou de l'amitié. Lis mes peines avant que je les dise, oublie mes hontes sans que je précise. Je trouve ça magnifique. Donc je me suis dit, tiens.
Eh ben, on écoute. Ouais. Corneille.
Donne-moi tout, même quand il reste plus rien. Rends-moi sous de toi quand rien n'est bien. Fais demain quand le présent est chien, car j'en ferai autant. Lis mes peines avant que je les dise. Oublie mes hontes sans que je précise. Cache-le-moi si un jour tu méprises, car j'en ferai autant. Et je sais que c'est un peu trop, que je demande plus qu'il faut, mais je te donne plus que des mots. Comme un fils, fais-moi croire quand tout finit. Et comme un fils, fais-moi voir quand tout est nuit. Et comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Comme un fils, je te devrai toujours ma vie. Si tu m'aimes comme un fils, dis-le-moi si tout autour de moi m'est hostile et que je le vois pas. Tiens ma main quand tout me pointe du doigt, car j'en ferai autant. Oh, et si je prends pour acquis mes chances, fais-moi peur que plus jamais j'y pense. Tiens ma tête quand elle fait plus de sens, car j'en ferai autant. Et je sais que c'est un peu trop, que je demande plus que je veux, mais je promets plus que des mots. Comme un fils, fais-moi croire quand tout finit. Et comme un fils, fais-moi voir quand tout est nuit. Et comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Tu m'aimes comme un fils. Oh, 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 oh. moi. Oh, 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 oh. On s'en voudrait affiché si on se manquait. Oh, oh, oh. Et si tu es passé, reviens-moi. Car je ne passerai pas toute ma vie à t'écrire ni à t'imaginer. Fais-moi croire qu'on tout finit. Et comme un fils, fais-moi voir qu'on tout est nuit. Et comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Oh, comme un fils, je te devrai toujours ma vie. Si tu m'aimes comme un fils.
Comme un fils de Corneille, je vois, ce soir de Leïla Bekhti, notre invitée. Alors, je continue un peu à dérouler le film pour dire que 2 ans après, Un prophète sort sur les écrans, Tout ce qui brille, Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Géraldine Nakache, avec qui vous formez à l'écran ce tandem qui est devenu iconique pour toute une génération. J'en ai 2 à la maison. Au-delà du très grand succès mérité de ce film, il y a quelque chose qu'on ressentait très fortement et alors qu'on voit, me semble-t-il, dans LOL, qui ressort saison 3, c'est une amitié très forte qui vous unit à un certain nombre de vos camarades, comédiennes et comédiens. Avant d'évoquer cela, écoutez Jonathan Cohen dans cette émission en mai dernier, c'était au moment de la sortie du Flambeau, le Koh-Lanta des Cassos.
En vrai, c'est un peu magique ça, pour le coup. Je pense que peut-être c'est que des gens consentant à faire une énorme connerie. Donc déjà c'est ça peut ça élimine déjà beaucoup de choses. Tout le monde est OK pour être là, pour faire ce genre de partition, pour jouer, pour aller dans un délire. Et puis après l'alchimie, je me souviens de la première saison, les filles entre elles, elles étaient mais tellement devenues, il y en a plein qui ne se connaissaient pas, elles se connaissaient comme ça, surtout il y avait déjà une admiration mutuelle l'une envers l'autre et un respect énorme. Mais il y a eu ce truc qui s'est passé, qui a été une alchimie entre les filles. Elles sont devenues hyper copines. Elles avaient créé déjà leur truc sur, comment on appelle ça, sur WhatsApp, là, leur fil de conversation. Elles se donnaient rendez-vous, elles se voyaient, oui. Enfin, c'était devenu un, ça pour le coup, moi j'y suis pour rien. C'est des gens qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître.
Alors ça, c'est quand même un mystère, les anecdotes que vient de dire Jonathan Cohen, ce qui peut se nouer dans un cadre professionnel et qui après s'épanouit dans la sphère privée. Mais je crois que ça participe aussi de la forme d'affection, je ne vois pas d'autre mot, que le public a pour vous et certains et certaines de vos camarades. Est-ce que vous pensez justement quelque chose de générationnel? Est-ce que les histoires d'ego se placent plus tout à fait au même endroit? La compétition entre rivalités plus la même?
Moi, c'est vrai que j'ai jamais senti de... En fait, je pars du principe où c'est pragmatique, c'est-à-dire ce métier, et c'est pour ça qu'il peut être très violent aussi, il repose sur le désir de l'autre. Donc à partir de ce moment-là, personne ne prend la place de personne. Et que du coup, il y a un espèce de... Moi, je suis une grande admirative. J'adore les acteurs, j'adore les actrices, j'adore les belles femmes, j'adore... Donc du coup, c'est vrai que, en tout cas, je ne sais pas si c'est cette génération, mais en tout cas, moi, tous les gens qui m'entourent, oui, c'est vrai que, au contraire, Géraldine, quand on se rencontre pour Tout ce qui brille, ce qui se passe, c'est qu'on devient si proche, c'est parce qu'on met 4 ans pour monter le film. Et qu'au début, on nous dit mais attendez, Géraldine, vous êtes juive, elle est musulmane, pourquoi vous ne faites pas un film sur ça? Parce qu'on s'en fout, en fait. On n'a pas envie de parler de ça, puisqu'on n'en parle pas dans la vie. Enfin, c'est pas. Au contraire, si. Et du coup, pendant 4 ans, on est seul à y croire. Et du coup, en 4 ans, bah, tu parles d'autre chose que du cinéma. Et c'est là où nos liens se sont. Mais c'est vrai que Jonathan, alors, il dit qu'il y est pour rien. Non, il y est pas pour rien. Quand il fait La Flamme, il réunit beaucoup d'actrices, beaucoup d'acteurs, tous ensemble. Et il a ce truc, Jonathan, de réunir. Et moi, j'adore ça. C'est ce qui me bouleverse chez lui. Et en Jonathan aussi, j'ai trouvé quelqu'un de il est essentiel à ma vie aujourd'hui. Enfin, il y a un truc qui est mais essentiel pour tout. C'est quelqu'un qui me dit beaucoup les choses, qui pas forcément les trucs bons à entendre, on se les dit. Enfin, c'est une vraie et c'est vrai que cette génération, ouais, en tout cas moi, je ressens pas de les peu de fois. Il y en a pas beaucoup, hein, mais vraiment les peu de fois où j'ai senti un peu de, je sais pas, des gens un peu pas très gentils ou un peu. Je m'en éloigne. Mmh. C'est pas grave. Je me dis bon, je suis triste plus pour eux pour le coup.
Alors justement, peut-être sur cette dimension-là et sur votre travail, votre métier de comédienne, Ilna Bekti. Écoutez Adèle Exarchopoulos, qui était elle, mon invitée en août dernier.
Parfois il y a de l'improvisation, parfois on nous donne un texte, parfois on fait absolument pas ce qui était prévu. Il y a des scènes où je devais pas du tout pleurer, que j'ai pleuré, d'autres où je me sentais complètement sèche à l'intérieur et dans les yeux. Et c'est ça qui est magique dans le cinéma, c'est ce genre d'accident, mais un peu comme dans la vie. Parfois, tu vas pour rompre avec quelqu'un, tu finis par avoir un fou rire. Parfois, tu viens un grand malaise avec un inconnu, et pareil, tu vas te mettre à lui raconter quelque chose de très intime. Enfin, toutes ces surprises, elles sont aussi sur un plateau, et moi, je sais que je dépends des autres sur un plateau. Mais autant des techniciens, de quelqu'un qui va être allié avec moi, ou je sais pas pourquoi, je vais avoir une confiance énorme en son regard et sa justesse. Et surtout avec les gens avec qui je joue, j'ai beaucoup de mal à jouer seul. Et pourtant, parfois, tu peux ne pas t'entendre avec tout le monde, il y a des égos qui vont te déranger, ça m'est déjà arrivé de pas avoir un plaisir fou forcément avec tous les partenaires que j'ai eus, même si j'ai de la chance, ça a été très rare, mais ça a été des grandes leçons, où je me suis dit, là pour le coup, qu'est-ce que tu convoques si la personne en face de toi ne dégage aucune émotion. Franchement, c'était super dur, mais je crois que c'était une de mes meilleures leçons, où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la triche, du coup, d'un coup? Qu'est-ce que tu vas en faire, Adèle? Et t'es obligé d'utiliser ce qu'il y a dans le présent. Je pense que c'est ça, les névroses des acteurs, c'est que tout le monde dit on est des grands névrosés, on fait ça pour être aimé, Moi, au final, si je dois réfléchir, c'est plus que sur un plateau, il y a quelque chose d'écrit, tu dois le donner, c'est ton travail, et pourtant, ça peut être parfois des choses très intimes, comme les larmes, le rire, toucher quelqu'un, etc. En fait, c'est qu'est-ce que tu vas faire au présent avec ce que t'as, en fait. Comment tu vas t'en sortir avec l'instinct de ton personnage.
C'est tellement intelligent. De toute façon, Adèle, je trouve qu'elle est dotée d'une intelligence humaine folle. Moi qui ai la chance d'être... alors ça fait un peu name-dropping, parce qu'on n'arrête pas de dire « Lui, c'est mon meilleur ami !» Mais c'est... Adèle, c'est hallucinant, même, du jeu. Moi, c'est une actrice qui me... C'est une actrice qui me bouleverse. On s'est rencontrés parce que j'ai vu la vie d'Adèle. Je la connaissais pas. On avait un ami en commun. J'ai demandé son numéro de téléphone et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, ça va te paraître fou, mais je sais que t'aimes vraiment les gens, que t'aimes vraiment la vie, que t'as les pieds sur terre. Il y a un espèce de truc qu'il faut... Je sais pas, rencontrons-nous. Et on s'est rencontrés et elle a un rapport au jeu qui est assez fou.
En quoi vous vous reconnaissez dans ce qu'elle vient de dire sur dépendre des autres sur un plateau?
Ouais, parce que le jeu c'était Nils Aristrup qui disait c'est un match de tennis. Si tu joues pas tout seul, et puis je pense que si on fait ce métier c'est parce qu'on n'a pas envie de jouer seul.
Mais des fois on joue contre un mur aussi.
Bien sûr. Maintenant, ouais, comme elle le dit, faut convoquer d'autres choses. Moi, quand les fois où ça m'est arrivé, je regarde les yeux de mon metteur en scène. C'est ce qui me pousse à... Et puis il y a l'équipe. C'est très juste quand elle parle de... Moi j'adore demander aux ingénieurs du son. Parce qu'à la voix, tu entends si la prise est bonne, et puis les techniciens sur un film, c'est les premiers spectateurs. Donc il y a une espèce de confiance, mais moi c'est pour ça les tournages, c'est beau, on part en voyage pendant 2 mois et on est ensemble C'est pour ça que j'ai jamais compris des acteurs qui vont absolument dire bonjour à personne sur un tournage. Tu te dis, mais c'est au-delà de... Il n'y a même pas de jugement. C'est vraiment, du coup, qu'est-ce qui est leur béquille, leur... Moi, un film, on le fait tous ensemble. Et je crois que c'est ce qui m'émeut le plus dans le cinéma.
Mais avant de partir en voyage, avec qui on se renseigne quand même sur le capitaine, peut-être pas tellement sur la destination, mais avec qui on va voyager. C'est ça qui vous décide à faire ou non un film?
Alors il y a le scénario, faut que ce soit une belle promesse. L'idée que ce soit une belle promesse pour ensuite faire des choses qui sont pas forcément écrites mais évidemment, il faut un capitaine avec un un bon scénario et puis des fois tu peux te en tout cas moi c'est quand je vois ce que j'ai fait c'est que je me dis juste en tout cas au moment présent je savais pourquoi c'est très important pour moi de savoir pourquoi je dis oui et parce que c'est un vrai investissement. En fait, je me suis rendu compte depuis quelques années que aussi j'avais besoin de faire des films que je serais allée voir. C'est important. Alors c'est très subjectif parce que c'est mon goût, mais en fait du coup quand je suis en promo, bah, je sais pourquoi c'est dans mon ventre. Et puis il y a rien de mieux que de parler de quelque chose que tu aimes et du coup il y a ça et puis oui sur ouais le scénario c'est quelque chose d'important mais que j'adore travailler après avec le metteur en scène et puis c'est magnifique le travail en amont qu'on peut faire et moi j'adore ça.
Alors justement avant de devenir très concret de ce nouveau film Je verrai toujours vos visages sorti aujourd'hui sur le travail un autre de vos partenaires qui est passé dans cette émission, mais alors c'était au moment du deuxième confinement, j'étais seul chaque soir dans ce studio, mais nos invités étaient connectés à distance, c'était le cas de Damien Bonnard, qui est venu au moment de la sortie
Les Intranquilles.
Les Intranquilles, Joachim Lafosse, dans lequel vous jouiez sa compagne.
Sur les films, mon grand plaisir, c'est la préparation, parce que le jeu, c'est un truc que j'aime profondément, mais la préparation des films, c'est-à-dire se nourrir de choses qui concernent le personnage ou l'histoire, et tout ça, c'est passionnant, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de tous les rôles que je fais, mais c'est en tout cas des moments où je peux me plonger dans d'autres mondes. Et c'est un peu pour ça que j'avais quitté l'école. Moi, j'ai quitté l'école parce que je trouvais qu'on nous, en tout cas moi, là où j'étais, on nous proposait pas un monde assez large. Et voilà.
Alors, pour faire écho à ces propos de l'immense Damien Bonnard.
Ah ouais, immense Damien Bonnard.
Immense acteur.
Ouais, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé avec lui.
Ouais.
Sur Les Intranquilles, avec Joachim, on a fait un truc magnifique. C'est que 80% du décor, se passait, 80% du film, pardon, se passait dans le même décor. Donc du coup, Joachim a pris ce décor pendant 15 jours avant le début du tournage, et on a pu travailler, on a pu tester des choses, on a pu. Et ce qui est assez formidable, c'est que moi, quand je veux travailler avec mon metteur en scène, c'est pas juste pour travailler sur mon personnage. Mmh. On est là pour un film, on est là pour. C'était génial parce que quel que soit, si même j'avais une scène toute seule ou que Damien avait une scène tout seul, on restait pour l'autre. Ça a été une expérience magnifique. Et ça, c'est vrai, le travail en amont, il y a un espèce de et puis c'est parce que c'est du temps de gagner pour le tournage. On n'a malheureusement pas le temps d'essayer plein de choses sur un tournage. Il y a beaucoup de séquences à tourner. Il y a beaucoup de donc du coup quand t'as l'occasion de faire ça, moi c'est vrai que je parlais d'investissement tout à l'heure, c'est que moi j'aime beaucoup le travail. J'aime travailler et surtout j'ai conscience de la chance que j'ai. Et je me dis que le métier d'acteur, il est difficile parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont peut-être mieux que moi et qui travaillent pas aujourd'hui. Et parce que c'est aussi alors il y a aussi le travail, mais il y a aussi la chance, la bonne rencontre au bon moment. Enfin c'est du coup ne serait-ce que pour tout ça. Je me dis que c'est un vrai cadeau qu'on me fait, donc du coup je dois être à la hauteur de. C'est pour ça le travail, ça. Mais du coup ça demande beaucoup d'investissement, et c'est pour ça qu'il faut choisir les projets parce que je sais le temps que ça va me prendre et que j'ai aussi ma vie à moi.
Quand même.
Mes 452 enfants.
Je crois que c'était 453, j'ai mal compté.
452.
Alors. Non, je corrige mes notes. Mais oui, je sais. Bon, 452, c'est noté, il est d'Abecti. Alors, je verrai toujours vos visages. Un film qui s'intéresse à un dispositif passionnant, la justice restaurative, qui existe en France depuis 2014, mais encore faut-il. C'est aussi le rôle du cinéma, nous le faire savoir et le faire savoir au plus grand nombre. Donc, il s'agit pour des victimes de viols, d'agressions, de vols aussi, de rencontrer, de dialoguer avec des auteurs d'infractions. De même nature, dans des dispositifs sécurisés, avec des professionnels, avec des bénévoles. Dans ce film, vous jouez, vous, une victime, employée d'une supérette qui s'est fait braquer. Voilà, 10 minutes dans sa vie est fichue en l'air. Ce rôle-là, pour prendre cet exemple très concret, vous le préparez comment ?
Alors, je le prépare déjà avec Jeannery, la réalisatrice. On se parle beaucoup, on regarde les dialogues, parce que les mots sont très très importants. Dans ce film, c'est un film aussi sur les mots, sur le silence, sur l'écoute. Puis on se rend pas compte des répercussions que ça peut avoir. pour les victimes. Donc du coup, on travaille beaucoup avec Jeanne. Il faut savoir que mon personnage, c'était l'un des moins fictionnés du film. D'ailleurs, j'ai reçu un message de la personne dont je joue. Ça m'a profondément touchée parce que j'avais peur quand elle découvrira. Enfin, j'appréhendais en tout cas. Et c'est vrai que Jeanne avait été très précise par rapport à ce personnage parce qu'elle me disait voilà, elle m'a expliqué, elle m'a donc c'était un espèce de
une responsabilité supplémentaire.
Ouais, un petit peu. Et puis en même temps, il y avait un espèce de on peut tomber dans cet écueil. On a tous des monologues. On a tous chacun
un récit à délivrer.
Un récit à délivrer. Quand t'es acteur, tu peux tomber dans un écueil de pleurer. Et du coup, elle m'a dit tout de suite, elle m'a dit ah non, pas du tout. Elle m'a dit je veux que tu parles au présent. C'est quelque chose pour moi le personnage de Nawel. Je me fais un peu le passé de ce perso et mais le passé de quelques jours aussi. C'est-à-dire pour moi, elle l'a préparé ce rendez-vous. Elle est très en colère. C'est un personnage qui est très très en colère. Donc elle a qu'une seule envie, c'est de parler. D'ailleurs, c'est la première qui prend le. Ils ont un bâton.
Le
bâton de parole, c'est la première qui prend le bâton et elle a besoin de se raconter. Et pour moi, elle le raconte de toute façon dans son récit. Ça fait 3-4 ans qu'elle prend des cachets et des calmants. Pour moi, elle n'a absolument pas dormi. Donc je n'ai vraiment pas dormi. Il y avait un espèce de truc, le manque de sommeil, ça te tient sur les nerfs. J'avais beaucoup mangé avant le tournage. Pour moi, elle se conforte avec la bouffe. Donc il y a un espèce de truc où j'étais un peu...
Ça, c'est vous qui l'amenez, ça. C'est pas Jeanne-Éric qui vous demande ne dors pas,
non, pas du
mange
tout.
Pour compenser. Ça, c'est vous, c'est votre travail personnel.
Oui, parce que très vite, elle me raconte que... Je le lis dans le scénario, mais surtout, elle me dit que dans la vie, ça s'est vraiment passé comme ça avec cette victime, c'est que elle, Nawel, son problème, c'est que... Depuis son agression dans le supermarché dans lequel elle travaillait, elle ne peut plus sortir de chez elle parce qu'elle se dit que son agresseur était cagoulé, que lui a vu son visage qu'elle ne l'a pas vu et que du coup s'il la croise dans la rue, il sera en colère puisqu'il sait qu'elle a porté plainte. Et quand elle raconte ça,
vous en dites pas trop, hein ?
Non. Ah bon ? Ouais. Allez, hop. Vous avez vu,
452. Je note.
Non mais voilà,
moi j'aime pas divulgâcher les films.
Mais non mais parce que c'était
en tout cas c'était où vous alliez en venir.
Non mais en tout cas la elle a un poids en moins.
Ouais.
Et ce poids en moins, j'avais envie de le raconter aussi par le corps et par le visage, c'est-à-dire quand tu dors mieux, bah t'as forcément meilleure mine et j'ai dormi en même temps que voilà, c'était plus un parcours un peu physique. Donc je l'ai travaillé un peu physiquement ce rôle. Et puis, il fallait que je sois très, très en colère. Donc ça, Jeanne, elle m'a appris à, parce que c'était très dur pour moi. Moi, mais c'est super. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour vivre d'autres vies que la mienne. Sinon, c'est pour me raconter moi, ça sert pas à grand chose.
Un film beau et important, en tout cas, que ce film sorti aujourd'hui.
Et Adèle, elle est pour tout le monde. Hein. Gilles, Lelouch, Miu Miu. Mais Adèle, Adèle, c'est une
reine. Adèle Exarchopoulos, ouais. Encore là. Jean-Pierre Darroussin, Elodie Boucher, Mio et Suliane Brahim.
Biran Ba, Dali Ben Salah. Ouais.
Voilà. Belle équipe. Hein.
Fred Testo.
J'ai mis une heure à reconnaître Fred Testo. Mais bon. Non, mais.
Il est super.
Ça ne fait que souligner sa performance, si je puis dire. Mais quelques mots avant que l'émission ne se termine sur C'est mon homme qui sort mercredi prochain. Oui. Alors là, d'autres vies que la vôtre. Première guerre mondiale, juste à la sortie. C'est un beau mélodrame. Là aussi, on ne va pas divulgâcher, mais votre personnage, Julie, c'est une femme libre. C'est une femme qui fume, qui conduit sa voiture, qui a son studio de photos et qui est quand même complètement enchaînée à l'amour. Ouais. Il y a quelque chose de très paradoxal chez elle. C'est ça que vous avez voulu creuser dans ce rôle-là, par exemple,
ouais,
notamment.
J'ai voulu creuser aussi exactement. Et en même temps, est-ce que c'est un paradoxe ? On peut être... moi, j'aime...
Apparent paradoxe.
Mais en tout cas, j'aime... j'aime l'idée que Guillaume Bureau, le réalisateur, ait raconté deux personnages féminins très indépendants, qui est joué par Louise Bourgoin aussi. Et oui, mais j'ai adoré jouer une grande amoureuse. Je trouve que aimer, c'est le truc quand même le meilleur du monde qui a été inventé. Ça veut rien dire cette phrase, mais j'espère que tout le monde l'a comprise.
On peut la graver dans les murs de ce studio.
Non, mais c'est vraiment le truc le mieux du monde.
Mais sans amour, il n'y a pas d'art non plus.
Ça me fait beaucoup de bien.
Je ne peux que que signer cette déclaration, Ilan Bektir. Alors, sérieusement, c'est la dernière question. Quand est-ce qu'on vous reverra, on vous a à peine vu, sur une scène de théâtre?
Ah, j'adorerais. J'adorerais, moi, retravailler avec Édouard, mais il le sait. Ouais, Édouard Baer,
Il y en a d'autres, Julie Duclos, par exemple.
Julie Duclos, voilà, en direct. Ah, mais elle le sait. Elle le sait, ouais. Que j'adore ses pièces et que... Mais moi, j'attends. Non, mais pour le coup, j'ai pas encore reçu de proposition qui me... Mais Julie Duclos.
Vous n'auriez rien contre. Vous êtes pour.
Ah ouais, je suis même pour, avec un grand, grand P. Bon, d'accord. On va dire ça.
Ouais,
mais non, pour le coup, oui, j'ai envie.
Parce que les Dagableurs, ça date quand même.
Ah, Dagableurs, ouais.
Bon, j'espère que ça se fera dans un avenir pas trop lointain. En tout cas, le temps a filé en votre compagnie, Ilan Bektir. Donc, j'ai le temps de rappeler que vous êtes à l'affiche du nouveau film de Jeanneri. Je verrai toujours vos visages sortis aujourd'hui sur les écrans. Allez-y, c'est une bonne heure pour aller au cinéma. Semaine prochaine, ce sera C'est mon homme, de Guillaume Bureau. Et puis toujours la troisième saison de LOL qui ressort sur Prime Video. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
D'avoir été notre invité.
Merci.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous allez nous parler du dernier film de Sophie Le Tourneur, sorti aujourd'hui dans les salles, Voyages en Italie.
Oui, Voyage, avec un S comme le signe malicieux du décalage qu'il entretient avec un autre film, Voyage en Italie au singulier, cette fois de Roberto Rossellini, qui décrit l'étiolement d'une relation amoureuse le temps d'un voyage à Naples. Sophie Le Tourneur aussi filme un couple en déroute, pas composé lui d'Ingrid Bergman et de George Sanders, mais de Philippe Catherine et d'elle-même. Jean-Phi et Sophie ont une quarantaine d'années, ils vivent à Paris avec leur petit garçon et elle est obsédée par l'idée de partir quelques jours en vacances avec lui pour relancer la machine amoureuse. Elle a envie d'aller en Espagne, lui freine des quatre fers et ce sera finalement la Sicile. C'est un film en trois parties dont le cœur italien est encadré par deux séquences parisiennes. Un film fait de pas grand chose, dont on l'imagine une grande économie de moyens, une écriture volontairement pauvre, des images et des motifs plutôt triviaux, mais dont il émane une profondeur assez miraculeuse. Sophie Le Tourneur, on la connaît pour son dernier film énorme, également une comédie plus fantaisiste, dans lequel elle racontait l'histoire d'une pianiste, interprétée par Marina Foïs, qui tombait enceinte malgré elle d'un compagnon très insistant. On retrouve d'une certaine manière dans Voyage en Italie ce motif d'un déséquilibre affectif dans le couple, une espèce de désaccord qui fait la matière même de la comédie. Là, c'est l'héroïne qui veut sauver son couple et qui, à grand renfort de guide du routard, traîne son compagnon de place en plage, alors même qu'il a pris soin évidemment de se faire une entorse juste avant le départ. Les deux premiers tiers du film fonctionnent comme une comédie burlesque très efficace, soutenue par une paire d'acteurs qui fonctionne très bien de ce point de vue. Ils sont tous les deux parfaitement insupportables et par là même probablement très justes. J'aime beaucoup les scènes tournées en intérieur à Paris, un tout petit espace domestique typique des professions intellectuelles urbaines, un peu en bordel, habité par des corps totalement normaux, dans lequel des discussions d'une banalité apparemment confondante, hein, acheter du pain, appeler ses parents, acquièrent une espèce de comique cru particulier par la force de la mise en scène. J'aime beaucoup aussi cette manière de garder presque tout le temps l'enfant en hors-champ. On l'entend appeler, parler, on entend le son des dessins animés qu'il regarde, mais on ne le voit pas. Une espèce de contrainte un peu cruellement évacuée du champ affectif le temps du film.
Alors dit comme ça, on a l'impression que le film est une comédie de mœurs un peu satirique ou un peu parodique.
On a l'impression, oui, mais il est plus complexe que ça. Le film se passe apparemment comme une chronique qui se déplace en Italie, on visite des îles, on mange des glaces, on boit du jus de citron, on mange des cannolis. On explore avec eux les dessous aussi de la carte postale, les moustiques, les sites magnifiques mais qui sont fermés par un grillage, les restaurants fermés, les règles, l'odeur de soufre qui émane du volcan. L'effet de réel est saisissant dans ses ratés. De fait, Sophie Le Tourneur a écrit ce film d'après des notes prises précisément sur le guide du routard pendant un voyage en Italie avec son propre amoureux. Des petites choses, des petits faits, des petits mots et des petites impressions dont on sent qu'elles innervent les dialogues et donnent beaucoup de vie à la comédie. C'est un film hyper écrit. Sophie Le Tourneur le raconte. Contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir d'une forme un peu foutraque, sa nervosité, elle est maîtrisée, référencée, construite. Et puis, il se passe quelque chose aux deux tiers du film d'assez spectaculaire. L'image change, Une voix off se détache et tout ce récit apparemment banal se trouve comme ressaisi dans une épaisseur singulière. On comprend qu'en fait on n'assiste pas au présent d'un couple dans l'illusion d'un récit omniscient, mais à une expérience passée racontée sur un mode subjectif. Bon, quand je dis spectaculaire, évidemment j'exagère, c'est pas Matrix non plus, mais à l'échelle de ce qu'est le film, de la modestie de ses enjeux, c'est une forme de bouleversement et c'est très émouvant. Émane finalement de ce film une mélancolie et une cruauté qui ne sont pas celles lyriques et nobles du film de Rossellini, mais vraies dans leur trivialité même. C'est un film qui travaille et retourne avec bien peu de choses grâce à l'intelligence de la construction narrative et de la mise en scène, une certaine insignifiance en une vraie pensée sur le couple et sur le cinéma.
C'est donc Voyages en Italie de Sophie Le Tourneur qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Merci Lucille Como. Et à présent, Affaire en cours avec vous, Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous parlez de la traduction en français d'un poème majeur de la littérature persane.
Oui, le Cantique des oiseaux est un long poème écrit à la fin du XIIe siècle en persan. Il est composé de plus de 4500 distiques. Ces distiques, ce sont des assemblages de deux vers pour narrer l'histoire de milliers d'oiseaux en quête de l'être suprême. L'auteur est le poète soufi Farid al-Din Attar qui, comme dans de nombreux récits orientaux, émaille son texte de contes, d'anecdotes, de paroles, de saints et de fous qui racontent ainsi ce voyage initiatique et spirituel. Je suis allée retrouver Laïli Anvar pour qu'elle nous explique les enjeux d'une telle traduction. Laïli Anvar, bonsoir. Vous êtes traductrice, spécialiste de la littérature persane, maître de conférence à l'INALCO. Vous avez traduit en français ce poème. Alors peut-être pour commencer, pourquoi considérer ce texte comme un chef-d'œuvre de la littérature soufie, cette branche mystique de l'islam ?
Parce que, de manière générale, la littérature soufie en langue persane, dès le XIe siècle, commence à être exprimée en termes poétiques par des très grands poètes qui étaient en même temps eux-mêmes des maîtres spirituels, en fait. Et l'œuvre de Attar arrive à un moment où vraiment cette tradition est devenue extrêmement mûre. Et donc Attar l'a beaucoup médité et en même temps il a le génie narratif. C'est à la fois un récit cadre absolument extraordinaire, exprimer l'idée que les âmes dans ce monde sont en voyage vers leur bien-aimé. Et puis à l'intérieur de ce récit cadre, il y a des oiseaux donc qui posent des questions et chacune de ces questions... chacune de ces excuses que l'oiseau a pour ne pas faire le voyage, en fait, sont des problèmes spirituels qui se posent aux soufis qui commencent dans la voie. Et la huppe, en fait, va être le porte-voix du poète qui était en même temps lui-même un maître spirituel. Donc voilà, en ce sens, c'est un chef-d'œuvre parce qu'il arrive à se faire se rejoindre à la fois la fine pointe de la pensée spirituelle persane et soufie et toutes les beautés, toutes les possibilités de la langue poétique persane.
Alors vous êtes la première à avoir traduit ce poème en français en vers, la seule version existante était en prose. Comment avez-vous travaillé pour rendre à la fois le rythme, la musicalité de l'œuvre et sa puissance spirituelle ?
Alors je vais vous surprendre, mais en fait j'ai commencé par m'imprégner de La Légende des siècles de Victor Hugo. Cela dit, je l'ai lu après que Victor Hugo avait découvert la traduction précisément du Cantique des oiseaux qui s'appelait Le langage des oiseaux. Donc Victor Hugo était un peu en panne dans la rédaction de La Légende des siècles. Et quand il a lu cette traduction, ça lui a ranimé son inspiration. Pendant que je traduisais, je lisais cette Légende des siècles en me disant, voilà, il faut se mettre dans quelque chose qui soit dans l'esprit de la Légende des siècles, parce que c'est quand même une œuvre spirituelle et narrative en même temps. Et donc voilà, il faut d'abord s'imprégner de poésie, évidemment de la poésie de la langue de départ, il faut connaître l'œuvre. Mais je crois que vraiment la clé pour traduire poétiquement un texte poétique, c'est de s'imprégner de poésie dans la langue d'arrivée. Et ensuite, essayer de jouer sur, à la fois sur la musique, sur les jeux de mots, sur les métaphores, pour pouvoir les rendre dans quelque chose qui relève en fait du génie du français.
Ce sont des alexandrins ?
Non, ce ne sont pas de vrais alexandrins. Victor Hugo ne m'aurait pas considéré comme une bonne élève. Disons que c'est ce que j'appelle un rythme alexandrin. C'est-à-dire que je ne le respecte pas toujours, les diérèses ou les muets, etc. Mais j'essaye que ça sonne un peu autour de 12 pieds, de manière évidemment tout à fait disloquée à la Victor Hugo.
Alors c'est un monde hein, ce poème, c'est un poème qui est très long. Comment on se plonge et comment on rentre dans cet univers ? C'est vrai qu'à la lecture de ce poème, moi je ne connais pas le persan, mais j'ai eu l'impression de voyager immédiatement, comme si les mots que vous avez posés sur ces mots d'un poème ancien étaient eux aussi contemporains. Comment on travaille sur cette distance temporelle et sur le fait de le rendre accessible simplement ?
Eh bien en fait c'est aussi un travail d'imagination, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se laisser fécondé en fait par le texte de départ, c'est-à-dire entrer dans le texte par tous ses sens, parce que les textes sont aussi très sensuels, les images sont très sensuelles. Donc il faut vraiment s'ouvrir, en fait, ouvrir à la fois son centre émotionnel, mais aussi tous ses sens spirituels et physiques, et ressentir ce que ça fait en soi, projeter ces images qui sont créées par le poète, et essayer ensuite de voir comment, par le français, on peut reproduire, évidemment pas la totalité de cet effet, mais au moins comment on peut aller aussi loin que possible par le français dans la recréation de ces mêmes émotions, de ces mêmes visions et de ces mêmes, finalement, ouvertures spirituelles.
Parmi tous les oiseaux, donc vous l'avez dit, c'est la huppe qui connaît le chemin. Il faudra en effet, avant d'arriver au but, traverser 7 vallées. Alors on a la vallée du désir, de l'amour, de la connaissance, de la plénitude, de l'unicité, de la perplexité, du dénuement et de l'anéantissement. Ce thème du voyage de l'oiseau comme quête spirituelle, est-ce que c'est un commun dans la littérature persane ?
Oui, c'est commun dans la littérature et dans la mystique persane, y compris d'ailleurs dans la philosophie persane, puisque le premier récit de l'oiseau que nous connaissons est de la main d'Avicenne. Parce qu'il y a dans la tradition philosophique iranienne une veine qui consiste pour les philosophes, à la Platon en fait, de raconter des histoires lorsqu'ils veulent vraiment arriver à la quintessence de leur pensée. Puisque à nouveau, un traité de philosophie rend peut-être moins compte. Et encore une fois, Platon le savait très bien, donc rend peut-être moins bien compte des réalités émotionnelles de l'âme qu'un récit. Donc on a vraiment des exemples qui précèdent, à la fois dans des récits en prose et des poèmes, mais avant Hathor, personne n'avait quand même mis un poème entier qui racontait l'histoire uniquement des oiseaux. On avait des histoires d'oiseaux, mais lui, il est le premier à avoir créé un récit cadre dont les protagonistes sont les oiseaux.
Est-ce que c'est un poème qui est connu aujourd'hui ou qui a été reconnu dès l'époque de son écriture ? Quelle est la notoriété de ce texte ?
La notoriété, elle est immédiate, c'est-à-dire que dès le début du XIIIe siècle, tout le monde va s'inspirer de cette œuvre et cette œuvre va circuler très largement. Elle va être très tôt d'ailleurs traduite en arabe. Alors, un peu plus tard, cette œuvre va être illustrée, mais surtout, elle va être retravaillée et un nombre incalculable de poètes vont puiser dans cette histoire qu'ils vont évidemment réinterpréter à leur façon. Le plus illustre d'entre eux, c'est évidemment le poète Rumi du XIIIe siècle, le poète mystique, qui reconnaît sa dette envers Hathor. Donc Hathor avait l'âge d'être son père ou son grand-père, disons, et il l'aurait rencontré enfant. Et donc il dit lui-même, Hathor a traversé les 7 cités de l'amour et moi je ne suis encore qu'au coin de la rue. Donc vraiment, il se met dans le sillage de Hathor, et l'influence de Hathor et de cette œuvre en particulier a été incommensurable.
Le Cantique des oiseaux de Farida Aldinatar vient de paraître aux éditions Diane de Cellier. Merci beaucoup Lègle Yanvar.
Et merci à vous Marie Sorbier. Comme chaque soir, nous quittons ce studio pour prendre des nouvelles d'artistes présentant leur travail un peu partout en France. Et c'est bien le cas ce soir puisque nous allons parler de cinéma avec le réalisateur Martin Jova. Bonsoir.
Bonsoir, ça va ?
Ça va plutôt bien, surtout avec la sortie du film Le Grand Paris, aujourd'hui, dans les salles. Alors, contrairement à ce que son titre pourrait indiquer, le film n'est pas un film à vocation pédagogique sur les politiques publiques en Ile-de-France, ni une adaptation du roman d'Aurélien Bélanger, qui d'ailleurs signe un texte dans le dossier de presse de votre film, mais une comédie qui met en scène deux amis, Leslie et Renard, qui un jour, qu'on leur confie une mission peu légale, se retrouvent embarqués dans une enquête après qu'ils ont découvert sur un chantier de la future ligne de métro du Grand Paris, on en parle quand même, un artefact, comme ils disent, un objet couvert de signes étranges. Alors, comment cette idée d'articuler une géographie très familière, pour vous, qui êtes né à Chelles, à une histoire de plus en plus fantastique, comment cette idée vous est venue ?
Je dirais que c'est à force de regarder les paysages défiler le long des voies de chemin de fer quand je prenais le RER E, depuis son terminus jusqu'à la gare du Nord, je voyais la banlieue évoluer, les chantiers comme ça naître ça et là. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière les palissades et si je trouvais, en remuant la terre, un objet d'une autre civilisation, quelles aventures en découleraient, quoi.
Alors vous avez fait en fait des années de repérage pour trouver ces lieux étranges, ces souterrains, ces bâtiments abandonnés, des campagnes peu profondes. Vous êtes donc, oui, beaucoup promené, vous avez beaucoup regardé, mais vous avez découvert des lieux qui vous ont vous-même surpris ?
Alors là, pour préparer le film, c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré des endroits que moi j'avais croisés dans ma route de zonard, hein, de péripéties en galère au cours de mon adolescence. Et puis quand j'ai commencé à avoir eu l'envie d'écrire un film qui allait flirter avec le fantastique, avec l'aventure, je me suis mis aussi en quête de nouveaux lieux. Et c'est vrai que j'ai découvert des endroits pas possibles. Alors moi, je connaissais pas, par exemple, la pyramide de Cergy-Pontoise. Je connaissais pas toutes ces galeries souterraines, même la tour de Romainville, je la voyais depuis le RER, mais j'étais jamais venu en personne la visiter. Alors j'ai vécu un peu l'aventure avant de la filmer, quoi.
Alors c'est un buddy movie, comme on dit en bon français, film de copains, relation entre des personnages qui va s'approfondir évidemment au fur et à mesure. C'est un genre en soi de comédie, de film d'action, de film fantastique aussi souvent. Vous aviez vous des références en tête, Martin Jovin?
C'est vrai que moi, je suis plutôt inspiré par le cinéma américain que je regardais avec mon papa d'abord quand j'étais petit, puis après ado avec les potes au multiplex du coin. Ça m'a beaucoup influencé, même si plus vieux, j'ai découvert un cinéma plus classique, peut-être plus d'auteur. Mais je crois que ce qui m'a vraiment donné envie de faire des films au départ, c'est les comédies américaines. Oui, les buddy movies, les bromances, Rush Hour, 21 Jump Street, Pineapple Express, tous ces films américains parfois potaches. Moi, c'est ça qui me touche le plus finalement.
Alors le potage, certes il est là, mais dans ce film qui est aussi plein de références à la pop culture, un des personnages dit que les Yvelines c'est le monde de Narnia, ce qui est beau c'est que cette culture est vraiment prise au sérieux, c'est pas un film qui se moque de ses personnages, de leur côté geek, ça c'était quelque chose quand même de très écrit pour le coup et d'une volonté chez vous.
C'est vrai que moi j'aime bien l'humour quand on se moque pas des personnages et quand c'est plutôt l'expression d'un sentiment, d'une tendresse qui par sa maladresse fait sourire, mais d'autant plus que moi je joue dans le film, donc j'ai un peu d'autodérision, mais j'allais pas me tourner en ridicule au point où on est dans la parodie. Non, c'est moi le cinéma et notamment le cinéma américain m'a toujours beaucoup fait rêver, beaucoup inspiré. C'est un imaginaire que je me suis approprié et qui fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Donc il y a du second degré et de l'autodérision, mais j'ai énormément d'amour pour mes personnages. Je dirais qu'il y a beaucoup de bienveillance en fait dans le film.
Alors on voit des têtes qu'on a déjà pu connaître et voir ailleurs, William Legmill ou Sébastien Chassagne par exemple, mais les deux acteurs principaux, Mamadou Sangaré et vous-même, donc vous n'étiez pas spécialement connus avant ce film-là. Est-ce que c'était évident pour vous de jouer dans votre film ?
Alors non, ça m'a beaucoup stressé, hein. J'avoue qu'au début c'était pas dans mon idée, et c'est à force de faire les répétitions avec Mamadou, parce que lui je l'avais repéré très vite pour le personnage de Leslie, et vu que j'avais pas encore trouvé Renard, je lui donnais la réplique, puisqu'il y avait personne d'autre encore, et puis vu que ça marchait bien entre nous, il m'a proposé de le jouer, il m'a dit tiens, et si tu le jouais toi? Alors j'en ai parlé à mon producteur, et il m'a fait ouais bien sûr, pas de soucis. Je me suis dit mais ils sont fous ces gars, je suis pas du tout comédien, mais je sais pas, ça m'a donné confiance en moi, et je me suis dit c'est peut-être mon premier et mon dernier film, alors autant tout tenter. J'avais ce petit fantasme qui traînait dans un coin de ma tête. Je me suis dit bon allez, on y va jusqu'au bout quoi. Bon, et je joue.
Vous avez bien fait de la sauver. Et dire aussi que il y a quand même quelque chose de sérieux dans le film, voire même de grave sur le fond, ce qu'est aujourd'hui ce Grand Paris, certains territoires qui sont enclavés. Leslie dit par exemple à un moment qu'il n'a jamais vu la mer. Il y a une dimension politique quand même dans cette comédie complètement assumée.
Oh, complètement. Moi, je pense que la comédie, c'est un bon genre de cinéma pour parler de choses sérieuses. J'aime bien me dire que quand on est amusé et diverti en regardant le film, mais mine de rien, j'avais quand même l'objectif de brosser un tableau de la banlieue parisienne, de sa jeunesse, des enjeux qui sont au cœur du projet du Grand Paris. Pour moi, c'est très important et je pense que c'est très, très, très sérieux de faire rire les gens sur des sujets importants. Et c'est vrai que, alors, moi, j'avais pas l'impression de faire un film militant, mais j'avais pas non plus envie d'être complètement déconnecté du réel, dans une forme d'abstraction, d'absurdité. Pour moi, le rire, c'est pas gratuit.
Bien d'accord avec vous. Merci beaucoup, Martin Jovin, pour ces quelques instants avec vous et à vous qui nous écoutez. Allez voir Le Grand Paris, sorti aujourd'hui sur les écrans. « Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Combeau, Marie Sorbier, Lise Ripoche et Apolline Limosino.